Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Louis.
Nova.
En fait, je pense que le fait d'être fille unique, c'est que ma parole, elle comptait. Parce que j'étais la seule parole d'enfant, au final, dans le foyer. Donc, ils étaient obligés de m'écouter. Parce que sinon, il y avait du silence. J'étais la seule enfant pour mes parents. Donc, je pense qu'être fille unique, ça te donne ça. Ta parole est prise au sérieux parce que c'est la seule parole qui existe dans le cocon familial. Et puis voilà, puisqu'il y avait aussi le récit de ma mère, le fait qu'elle ait fui le Maroc, etc. Ça a donné, en tout cas, à mon existence en France, pour mes proches, il y avait un peu une idée qu'il fallait me protéger de tout contre tout. Il fallait pas qu'on me laisse sentir un manque. Donc du coup, j'étais importante. Et quand on vous fait sentir importante dans un foyer, je pense que c'est plus facile pour vous de prendre la parole.
Nesrine Slaoui est journaliste et elle fait partie des 4% de personnes diplômées d'un bac plus 5 qui sont enfants d'ouvriers non qualifiés. D'origine marocaine, elle a grandi dans le sud de la France, dans la banlieue d'une petite ville près d'Avignon. Fille d'un père maçon et d'une mère femme de ménage, elle a décroché un diplôme de premier cycle à Sciences Po Grenoble, puis un master de journalisme à Sciences Po Paris. De ce parcours de transfuge de classe, qu'elle a parfois tue pendant ses études, elle a ensuite beaucoup parlé. Sur les réseaux sociaux, puis dans une vidéo pour le média Brut, devenue virale avec plus de 16 millions de vues et qui a fait beaucoup parler d'elle. Et elle prépare désormais un livre témoignage sur le sujet, à paraître en 2021 chez Fayard. J'ai demandé à Nesrine de me raconter son parcours et comment elle avait choisi d'en faire un sujet de discours public. Je suis Charlotte Pudlowski, vous écoutez Fracas.
J'ai adoré l'école. J'étais vraiment quelqu'un qui adorait ça et j'avais pas trop le choix non plus, mais heureusement que j'ai adoré ça. Mais ma mère voulait absolument que je fasse de grandes études. Elle voulait absolument que j'aille le plus loin. Je pense qu'elle a regretté de pas avoir eu au moins le bac. Du coup, elle s'est dit, bon, tu seras ma vengeance, ma fille. Donc, elle voulait absolument que je fasse des grandes études. Et dès le collège, en fait, moi, je dis à mes profs, je veux être journaliste. Et ils me répondent que la voie royale à ce moment-là pour l'être, c'est de faire Sciences Po. Et certains me disent, mais tu peux pas faire Sciences Po. Donc je dis, mais attendez, ça existe, c'est juste que je veux pas le faire. Il y a un truc que je comprends pas. Et à la fois, c'était vraiment, ma scolarité, elle a toujours été comme ça, c'est que j'avais des professeurs qui croyaient énormément en moi et qui me poussaient à faire Sciences Po. Et dans le même temps, j'avais dans la même classe des professeurs qui me disaient, tu n'as pas le niveau en anglais, tu n'as pas la bonne culture générale, ils ne te prendront pas, tu ne sais pas bien t'exprimer. Enfin, c'était vraiment assez contradictoire. Je passe le concours de Sciences Po Aix au bac, je le rate monumentalement. Donc je m'inscris sur post-bac dans une prépa publique. Et je me rends compte, avec tout le respect que j'ai pour mes professeurs, mais je me rends compte que cette prépa va me mener nulle part. Sincèrement. En fait, j'ai pris vite conscience du retard que j'avais scolairement. Et donc j'arrive dans cette prépa et je me dis non, en fait ça va pas me suffire. Et j'entends parler dans un coin, vraiment dans le couloir. Il y avait 2, 3, 4 personnes qui étaient issues de milieux assez aisés, parents avocats, journalistes, etc. Et je les entends parler d'une prépa dans un lycée privé. Et moi, je me dis, je vais la faire, du coup, parce que... à ce moment-là, j'étais dans une logique de mimétisme. Tout ce que les gens aisés faisaient pour réussir, je le faisais, parce que je me dis, bon, ils connaissent mieux que moi le système, donc autant faire du copier-coller. Et là, je me dis, ouais, par contre, financièrement, ça va peut-être un peu être trop cher et tout. Et finalement... C'était cher, mais ça va. Et donc, moi, j'avais travaillé, j'avais été animatrice tous mes étés quand j'étais jeune. J'étais animatrice, j'ai été bouchère, caissière aussi, mais là, en l'occurrence, j'étais animatrice, BAFA. Et du coup, ça m'a servi parce que j'ai pu payer ma prépa et mes parents ont comblé le manque. Et à la fois, sans cette prépa, j'aurais jamais pu avoir Sciences Po. Jamais. Et en même temps, c'est ma première claque de violence de classe. C'est la première fois que je comprends que je suis pauvre. C'est vraiment quand je mets les pieds dans ce lycée que je vois que je suis la seule issue de l'immigration, la seule femme, la seule immigrée tout court en fait, que je me rends compte qu'à partir de maintenant, je vais être seule tout le temps. Parce qu'en fait, ça crée une situation assez paradoxale. Si vous êtes seule dans un endroit, vous savez que vous êtes seule, les autres le savent aussi. Donc pour eux, vous êtes une intrusion. Vous n'êtes pas quelque chose de... Vous êtes étrange, c'est étrange que vous soyez là, puisque vous ne ressemblez pas aux autres. Et là, je l'ai compris. C'est vraiment la première fois où je me dis... Et je me suis dit juste, observe-les. Il va falloir que tu recopies tout. Et c'est là où j'ai perdu mon accent du sud. C'est là où j'ai arrêté de mettre des survêtements. Parce que jusqu'ici, j'étais un garçon manqué. C'est là où j'ai découvert le maquillage. C'est là où j'ai commencé à mettre du fond de teint, du mascara. Et c'est là surtout, parce qu'on a l'impression que ça passait que ça, mais non. C'est là surtout où sur mon cahier, dès qu'il parlait d'une référence littéraire, du cinéma, je notais. Oui, je connais totalement. Et puis je notais. Ok, ce soir, il va falloir que tu regardes ce film, il va falloir que tu lis ça, il va falloir que... Et voilà. Et c'était juste dans le but, parce que j'imaginais qu'ils étaient là et que moi, j'étais derrière. Et il fallait que je les rattrape. J'ai avalé des livres à n'en plus pouvoir. J'ai regardé des documentaires jusqu'à avoir les yeux rouges. donc non. Mais c'était fou, parce que pour eux, ça avait l'air si facile. Et ça, je l'ai vu encore plus à Sciences Po derrière, cette espèce de nonchalance quand on fait des grandes études qui peuvent se permettre, que moi, je ne peux pas avoir. Je ne peux pas avoir la nonchalance de me dire « Bon, c'est bon, j'y suis, tranquille. » Non, en fait, je ne peux pas. Parce qu'on doit toujours être dans l'hypercorrection, dans ces cas où tu as l'archi, la sociologue qui en parle très bien, mais se corriger tout le temps, être celle qui parle le mieux français, celle qui... C'était très bizarre.
Et sur le rapport à la parole, quand tu étais en prépa avec eux, est-ce que dans leur manière de parler, dans ta manière de parler, il y a des choses qui ont changé, il y a des choses qui se sont révélées?
J'étais plus silencieuse, déjà que dans mon propre milieu, parce que je ne savais pas ce que j'avais le droit de dire ou de ne pas dire. Et j'avais la peur en permanence d'être jugée pour mes goûts. Je vous donne un exemple, mais c'est vraiment, c'est bête. Hein. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui regardaient de la télé-réalité pour décompresser. Et ils ont parlé en mode, ouais, non, mais c'est pour se détendre et tout. Et moi, je ne la regardais pas. Et une fois, j'ai dit, je vais regarder pour rigoler. Ils m'ont dit, ah non, fais pas ce truc de beurette. Et là, ça m'avait choquée, parce que je me suis dit, vous permettez des choses qui, vous avez le droit de le faire sans jugement. Et moi, en fait, c'est pour ça que j'ai eu du mal. Pendant des années, j'ai pas parlé, en fait. Parce que j'ai pas parlé. Si, j'ai parlé, mais je parlais pas de sujets qui pouvaient créer justement cette distance entre eux et moi. Et qui pouvaient surtout leur permettre de me juger.
Et tu racontais tout ça à tes parents?
Non. Non. Et c'est le plus dur dans les parcours de transfuge, de classe, de transclasse, c'est qu'il n'y a personne qui peut nous comprendre, à part nous-mêmes. C'est-à-dire que leur parler pour leur dire quoi? Ils ne comprendraient pas. Parce que pour mes parents, les gens de Sciences Po sont intelligents. C'est l'intelligence, c'est l'île de la nation. Donc ils ne peuvent pas être capables de comportements violents, dégradants, etc. Non, je ne pouvais pas leur parler, ils ne pouvaient pas me comprendre. Je parlais, en fait, ça a été plus compliqué à Sciences Po Grenoble, parce que ça a viré à l'harcèlement. Et encore une fois, j'ai pris 6 ans pour comprendre que c'est du harcèlement.
Et qu'est-ce qui s'est passé?
C'était affreux. Quand je pense à Sciences Po Grenoble, quand je parle de Sciences Po Grenoble, j'ai un truc, j'ai le cœur qui est compressé. Ça a été affreux. Parce que j'étais la beurette en permanence, parce qu'ils me prenaient en photo en cachette dans l'école, parce qu'ils m'envoyaient des messages le soir pour me dire t'es bonne en masse sur mes réseaux sociaux, parce que j'avais le droit de rien faire. Dès que je faisais un truc, c'était parce que je voulais me faire remarquer. Je me suis pris en fait tous les préjugés qu'on a sur une femme arabe en fait, en pleine face. Donc j'étais... forcément superficielle, forcément pas intelligente. J'étais là, il y avait quelque chose de bizarre derrière ma présence. Je sais même pas comment on peut expliquer ça. Et c'est pour ça que j'ai dit que je parle, parce que j'ai besoin de demander aux gens comment ça s'est passé pour eux, pour savoir si est-ce que c'est moi qui suis fautive, est-ce que j'ai fait quelque chose de pas bien, ou est-ce que c'est quelque chose qui est plus systémique, et dans ces cas-là, c'est plus grave. Ça a été d'une violence rare. Et en plus, c'est pas de la violence physique, donc c'est très compliqué à prouver, à quantifier. C'est de la violence, c'est psychologique, c'est social, c'est des remarques. Par exemple, quand j'arrive avec un survêt parce qu'on était au sport juste avant, on m'appelait « wesh » pendant une heure, pendant le cours. C'est quand je monte une asso, me dire « ouais, mais ça sert à rien, pourquoi tu veux absolument te mettre en avant ?» En fait, c'est vraiment être jugé à chaque fois que vous essayez de faire quelque chose. Et après, il y a ma personnalité qui fait que je suis quelqu'un qui n'est pas discrète. Mes parents m'ont éduquée à parler. Donc, je ne suis pas discrète. Je n'ai pas eu envie de raser les murs. Ils se moquaient beaucoup de ma manière de marcher. Parce que j'ai toujours marché. En fait, je suis grande de taille. Et j'ai toujours marché la tête haute. Mais parce que chez moi, on marche la tête haute. C'est comme ça. On ne se laisse pas abattre par ce qui nous entoure. Et pendant des mois, on m'a dit, mais Nesrine, c'est bizarre comme tu marches. Ça allait vraiment, c'est des petites violences quotidiennes. On a l'impression qu'on est un objet de foi, en fait, pour tout le monde. Parce qu'ils n'ont jamais vu, en fait, une femme maghrébine qui prend la parole et qui a envie de débattre avec eux. Quand j'assistais à des conférences, on me disait, mais pourquoi elle fait semblant d'être intéressée? Et en plus, c'était le moment où... Et je suis pas du tout dans l'idée de critiquer d'autres femmes, c'est pas du tout mon discours, mais c'était le moment où les seules femmes qu'on voyait à la télé, par exemple, c'était Nabila et Ayem. Donc c'était des femmes de télé-réalité. Et donc dans leur tête, c'était ça, une femme maghrébine. C'était ça, c'était uniquement du superficiel, du quelqu'un qui peut parler que de beauté. Et vraiment, je les juge pas, elles. C'est pas elles que je suis en train de pointer du doigt, c'est ceux qui font des rapprochements comme ça. Donc voilà, ça a été très dur. Ceux qui ont subi de l'harcèlement, et je pense que même les femmes en général le peuvent le ressentir, on a été tellement délégitimés, notre présence est tellement... Il faut toujours qu'on s'excuse d'être quelque part, qu'on ne veut pas croire quand on réussit. On a du mal... Moi, par exemple, quand j'ai passé concours de Sciences Po Paris à l'écrit, je l'avais quand même préparé, mais préparé, c'est plus que la préparation. Je pouvais moi-même donner les notes aux autres candidats. C'était tellement... Je maîtrisais... Vraiment, c'est pas pour me vanter, mais j'avais tellement... travaille ce concours et donc je vais le passer dans l'immense hangar. Je remplis ma feuille et je réponds pas aux deux questions à la fin. Et donc pour moi, ces deux questions, c'est la fin du monde. On prend tous le train et j'ai rencontré d'ailleurs un camarade de Sciences Po dans ce train et je lui dis non, mais je l'aurai jamais. J'ai fait laisse tomber, j'ai écrit n'importe quoi. Lui me dit ah ouais, moi je pense que ça va et tout. Je dis ah non, moi c'est. Et j'y vais et je continue parce que j'avais un mémoire à rendre, donc je continue mon année à Grenoble. Et un jour, en classe, je reçois un texto qui me dit félicitations. Et j'étais en cours, je suis sortie, j'ai poussé le cri de joie le plus improbable dans les couloirs de Sciences Po, Grenoble. Et c'était ma plus. C'était même pas une vengeance, là, c'était incroyable ce qui venait de se passer. C'était ouf. Mais il y a quand même un imbécile qui passe dans les couloirs et qui me dit bah, t'as été prise parce que t'es une rebeu, t'es jolie et c'est à la mode. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce que tu penses? Là, je suis vulgaire, mais à ce moment-là, c'est vraiment ce que je me suis dit. Je me suis dit, mais pourquoi tu rages? Je vais partir, en fait. Donc, c'est vraiment, ça a été mon mal-être s'est arrêté là. Ça, c'est stop, ça y est. Et c'est pour ça que Sciences Po Paris, je l'ai mieux vécu, en fait.
Et alors, du coup, tu as fait ton master à Sciences Po, ça s'est bien passé. Ouais. À la fin de ton master à Sciences Po, tu trouves du boulot. Mm-hmm. Et donc là, Brut vient te voir.
Ouais.
Et te propose de faire une vidéo sur... Qu'est-ce que c'est d'être transfuge de classe et de prendre la parole là-dessus?
En fait, c'est parce que je fais un tweet. À un moment, tout le monde réalisait un tableau de statistiques qui disait qu'entre 3 et 4% d'enfants issus de milieux ouvriers faisaient de grandes écoles, des études à bac plus 5. Donc je fais un tweet et j'écris ce que je n'ai jamais écrit, ce que je n'ai jamais dit à Sciences Po. C'est-à-dire c'est quelque chose que je n'ai jamais dit. Il y a beaucoup de gens qui l'ont découvert à ce moment-là, qui pensaient que j'étais issue d'un milieu aisé, même à Sciences Po Paris. Il y a beaucoup de mes camarades qui ont découvert qui j'étais, du coup. J'écris, ma mère est femme de ménage, mon père est maçon, je suis journaliste et je suis fière d'eux. Et donc Brut me contacte en me disant, c'est fort le message, en fait, déjà de le dire, parce qu'il fallait que je passe par cette phase de « sois totalement honnête sur d'où tu viens, qui tu es, et t'arrêteras de t'excuser d'exister ». Et en fait, le déclic, il est tellement bête, c'est que, pour le tweet, hein, c'est que je suis à RMC, je bosse à un matinal, et il y a une femme de ménage qui nettoie mon bureau. Et je lui dis bonjour, et il n'y a personne dans la rédaction qui lui dit bonjour. Parce qu'elle enfin, elle est vraiment en train de nettoyer, je veux dire, c'est pas comme si elle était loin, la femme de ménage était vraiment en train de nettoyer nos bureaux, elle soulevait le clavier, donc nous on était comme ça, on a laissé faire. Il pouvait faire au moins ça, au moins dire bonjour. Et donc là, le déclic, il vient de là, je me suis dit, j'ai une femme de ménage qui nettoie mon bureau. Alors que ma mère, elle a nettoyé des bureaux toute sa vie. Et à la fois, je me suis rendu compte. Pourtant, je n'avais pas un poste de dingue à RMC1. Je travaillais à l'édition et au bandeau de l'émission de Jean-Jacques Bourdin. Je n'avais pas, un poste incroyable. Mais le chemin, il voulait dire déjà beaucoup, en fait. Et à ce moment-là, je me suis dit, j'ai l'impression qu'on nous a toujours poussé à avoir honte de ça. tout le parcours des grandes écoles, c'est d'avoir honte des milieux populaires, de que ce soit des milieux qui sont pas valorisants, parce que les gens te parlent de leur voyage aux quatre coins du monde, du fait que eux, peut-être, ils ont eu des femmes de ménage. Donc, c'est compliqué d'être... par exemple, après la vidéo brute, il y en a qui m'ont reproché de leur avoir caché, de leur avoir menti. Mais en fait, j'ai jamais menti. Je l'ai juste pas dit. Mais parce que c'est... Est-ce qu'on peut m'en vouloir ? Moi, à mon sens, non. Parce que c'est comment on dit à quelqu'un que sa mère est femme de ménage quand lui, il te dit « j'ai des femmes de ménage ». Comment le rapport de force qui s'inscrit à ce moment-là, il est juste invivable humainement. J'ai pas envie de dire à quelqu'un, quelqu'un me dit « oui, ma femme de ménage, ce matin, elle m'a saoulée, j'ai pas envie de lui dire « ah, mais ma mère est femme de ménage ». Je vais mettre en position de porte-à-faux par rapport à lui. Ça a créé un mauvais rapport. Donc je l'ai juste pas dit. Et en fait, ma mère garde des maisons luxueuses dans le sud, parce qu'elle fait du gardiennage maintenant. Et du coup, j'avais des photos de moi luxueuses dans des maisons. Mais moi, dans ma tête, j'avais même pas l'idée de... en fait, je me disais pas, les gens ils vont croire que c'est mes maisons. Les maisons, il y a trois piscines, tu vois. Donc moi, bêtement, je pose des photos dans ces maisons-là, mais parce que c'est en été, si tu veux, les propriétaires autorisent ma mère à ce que moi, j'aille me baigner avec deux potes, tu vois. Et les gens... Je pensais que c'était mes maisons, en fait. Et moi, je me suis dit, mais j'ai combien de maisons dans le sud ? J'en ai 7, 6. Avec des... Mais vraiment, et moi, il y a eu un jeu d'illusion pendant quelques années où moi, j'ai rien dit. Donc les gens supposaient. Et je pense que surtout physiquement, je fais plus populaire dans ma manière de m'habiller au quotidien, de parler. Je fais immigrer. Et même pas, il y en a qui me prennent pour une italienne, mais... J'ai perdu un peu mes attributs populaires petit à petit, à part avec mes proches, parce que ça revient très souvent. Mais et je pense que ça, du coup, il y avait un truc de mais non, mais elle nous ment en fait. C'est pas vraiment son milieu social.
Et je t'ai entendu dire en interview une fois que le fait que tu parles très très vite, parce que tu parles très très vite, c'était aussi lié à ton milieu d'origine.
Parce que je travaille là, j'ai du mal, mais depuis l'école. Hein. Et après, ça, c'est mon analyse. Je ne sais pas si ça a un sens, si c'est vraiment pertinent, je veux dire, si c'est prouvé. Mais moi, je pense que c'est lié au fait aussi que je ne me considère pas encore comme légitime. C'est-à-dire que j'ai l'impression que si je parle vite, je ne vais pas ennuyer les gens. C'est-à-dire que quand je vais vraiment parler du sexisme et du racisme, je vais accélérer comme si j'avais un train à prendre. Mais parce que c'est vraiment des trucs où j'ai peur qu'on me dise « non, tu dis n'importe quoi ». Et ça, déjà, ça venait à Sciences Po quand je faisais mes exposés. Mes profs me disaient, tu parles vite. Parce que moi, j'avais juste peur en tête que quelqu'un se lève et me dise, mais t'as absolument zéro culture. Tout ce que tu dis là, c'est faux. Tu te trompes. Et j'avais juste peur de ça, en fait. Et je pense que j'ai encore ce truc.
Et alors, du coup, quand Brut vient te voir et te propose de faire la vidéo, est-ce que c'est facile pour toi de décider de prendre la parole ? Est-ce que tu préviens tes parents ? Est-ce que tu préviens des copains ? Est-ce que tu pensais que c'était un truc un peu anodin ?
J'ai dit oui aussi parce que je pense que c'est des récits qu'on entend très peu. Et je trouvais ça cool que pour une fois, on entende en fait, ce genre de récits. Et après, j'ai passé, je crois que c'est une semaine et demie, deux semaines, à réfléchir à est-ce que c'est OK ce que je vais faire ? Est-ce que je suis capable de le faire, de prendre la parole ? Mais c'est surtout que moi, en fait, dans ma tête, il y allait avoir 10 000 vues et c'est tout. Mais moi, je n'avais pas conscience à cette époque-là de l'impact des réseaux sociaux en général. Parce que moi, dans ma tête, j'étais persuadée qu'on allait se la partager entre étudiants de Sciences Po racisés et que ça n'allait pas dépasser notre cercle. Vraiment. Et pour les mains de mes parents.
Parce que juste pour rappeler, du coup, tu dis en début de vidéo que tu as vu vraiment le corps et les mains de tes parents s'abîmer pour tes études, parce qu'ils ont fait des heures supplémentaires pour pouvoir te payer la prépa, puis Sciences Po, etc. Et donc, tu as vraiment vu la corrélation entre tes études qui avançaient et leur corps qui se détériorait.
Ouais, après, je peux pas rentrer trop dans des détails, mais c'est au-delà de s'abîmer. Ma mère ne peut plus travailler aujourd'hui, il y a une raison. C'est vraiment au-delà de s'abîmer, c'est-à-dire qu'ils se sont usés. C'est des corps qui sont usés pour que moi, je puisse avoir accès aux études. Et en fait, je ne pensais pas que j'allais dire un jour, mais c'est venu d'un truc très simple. Il y a un reportage qui a tourné beaucoup sur les réseaux sociaux qui venait du Maroc. Et c'est des fils à qui on demande de regarder les mains de leur mère pour prouver que c'est elle qui s'occupe des tâches ménagères. Et ils regardent les mains de leur mère et ils voient qu'elles sont fripées. Et ils voient qu'les ongles sont cassés et ils pleurent. Et en fait, moi, j'ai pleuré. Je me rappellerai de ma vie parce qu'on regarde... Et en fait, moi, mes parents, je leur disais merci, mais je n'arrivais pas à leur dire merci à la hauteur de leur sacrifice. Et je vais dans le salon, et je fais regarder la vidéo à ma mère, et juste, je lui tends, juste pour lui dire, c'est, je pense la même chose que ces garçons par rapport à leur mère, c'est merci. J'ai conscience que tes mains sont abîmées, parce que ma mère a eu un accident de travail assez grave et elle ne peut plus utiliser sa main droite. Et donc, du coup, moi, j'avais la main avec des manucures. J'ai toujours normalement des ongles faits, etc. Et je prends sa main et je l'embrasse. Et en fait, c'était juste une manière de lui dire merci. J'ai conscience de tout ça. Et mon père, c'est la même chose. Mon père, j'ai toujours eu du mal à regarder leurs mains. Et c'est vraiment un truc qui est difficile pour moi aujourd'hui de regarder leurs mains. Parce que je me sens coupable. Et pour moi, c'est toute la violence de classe, c'est ça. C'est les riches n'ont pas les mains abîmées, en fait. Et les pauvres ont les mains et le corps entier abîmés. Mais en tout cas, ouais, c'est ce qui m'a motivée à faire. Moi, cette vidéo, je l'ai fait plus pour mes parents que pour le reste, en fait. Le message, il était adressé à eux. Et voilà, c'était juste ça, en fait. Et c'est fou le soutien que j'ai reçu derrière. C'est incroyable le nombre de messages de « je me reconnais dans ce que tu dis, merci de l'avoir enfin dit ». Et vraiment de partout, du Canada, de la Suède, de Maldives, de Guadeloupe, de Bénin. Mais j'ai au moins 1200 messages comme ça. C'est très... c'est étrange comme parfois on a l'impression de dire des choses banales, des choses qui ne sortent pas de l'ordinaire et qui, par une vidéo, par une prise de parole, peuvent en fait faire un écho. À ce moment-là, bah, parler de soi, en fait, ça ne sert pas à rien. Parce que, et surtout, quand on est des femmes racisées, en fait, c'est surtout ça, je pense, qui a fait l'impact de la vidéo. Quand on est des femmes racisées, parler de nos vécus, c'est forcément politique.
Et il y a aussi eu un backlash avec des gens qui t'ont reproché de sous-entendre que quand on veut, on peut, de nier un petit peu les difficultés sociologiques qu'il peut y avoir quand on vient d'un milieu défavorisé. Il y a des gens qui t'ont fait un procès en légitimité, en disant que t'étais pas légitime pour prendre la parole sur la notion de transfuge de classe, qu'il y avait des chercheurs et des chercheuses qui travaillaient depuis des années là-dessus. Est-ce que t'as compris ces reproches-là et comment t'as vécu cette forme de backlash ?
Je les comprends dans un sens où une parole ne peut jamais être complète. En fait, la vidéo est courte, mais même globalement. Mais c'est très difficile d'expliquer aux autres comment je le vois. C'est très difficile d'expliquer que j'ai envie d'applaudir nos réussites et j'ai envie en même temps de dénoncer le système. Donc j'entends, et en même temps, le procès en illégitimité. Qui est surpris que quand une femme parle, encore plus quand c'est une femme maghrébine, on attaque sa légitimité. C'est une question qu'on ne pose pas à d'autres personnes. Un homme blanc ne lui a pas demandé s'il était légitime ou pas. Il parle de toute façon. Donc, c'est pourquoi je serais illégitime sur un truc que j'ai vécu. Je suis illégitime si j'en fais une thèse sociologique, si j'en fais un truc, si j'en tire une conclusion générale. C'est là où je suis illégitime, parce que ce n'est pas mon rôle. Moi, je ne suis pas sociologue. Moi, je suis restée sur ce sujet-là que dans le sens du témoignage. Donc, moi, je vous raconte mon témoignage. Si vous vous reconnaissez là-dedans, c'est qu'on a sûrement vécu la même violence de classe, le même racisme, le même sexisme. Et surtout, je trouve ça violent qu'on le fasse à des gens qui se sentent illégitimes. C'est-à-dire que les gens qui m'attaquent en me disant que je ne suis pas légitime, dans la vidéo même de Brut, par exemple, je dis, on m'a tout le temps dit, tu n'es pas à ta place. Donc, c'est quelque chose dont j'ai conscience que ma place ne va pas de soi. Et je trouve ça extrêmement violent qu'on me fasse ce reproche-là.
Et donc là, j'ai en train d'écrire un livre sur l'histoire de ta famille et sur la notion de transfuge de classe, d'un point de vue assez personnel. Est-ce que c'est le même plaisir d'écrire et de parler ?
Quand on écrit avec un syndrome de l'imposteur sur les genoux, c'est pas évident, parce qu'il faut des fois lui dire de rester calme et de pas bouger pendant de longues heures. mais c'est un exercice qui me permet justement d'aller plus loin. Donc non, j'adore cet exercice. Après, j'ai très très peur. J'ai énormément peur de la sortie de ce livre. Après, je me suis dit, bon, je me suis pris un backlash après une vidéo. Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire qu'un autre backlash ? Au pire, quelques insultes sur Twitter, on n'est pas à 2-3 insultes près.
Nesrine Slaoui est journaliste et autrice d'un livre à paraître chez Fayard en 2021 sur le thème des transfuges de classe. Cet épisode de Fracas a été monté avec Lucille Rousseau-Garcia, réalisé et mixé par Malo Williams. La musique a été composée par Valentin Fayot. Fracas est un podcast produit par Louis Média et Radio Nova.
Si ce podcast vous plaît, je vous invite à aller commenter sur Apple Podcasts. Et si vous vous dites « non, j'ai pas le temps, j'aime pas trop les commentaires », c'est vraiment très important pour nous soutenir. Donc vous pouvez en laisser sur Fracas, mais aussi sur Passage, Émotion, Travail en cours, le Book Club. Et si vraiment vous voulez nous soutenir, parce que Louis vous accompagne sur vos trajets, pendant vos rangements, dans votre lit, vous pouvez vous abonner au Club Louis, louismedia.com/club. À très vite.
Bonjour, je suis Marine Revol et je présente Fête des Gosses, le podcast de Louis Média qui vous aide à traverser la jungle de la parentalité. Dans Fête des Gosses, je démêle notamment le vrai du faux de l'éducation positive ou de la chasse aux écrans. Et je me demande par exemple comment ne pas refiler nos casseroles et nos traumas à nos enfants. Vous y entendrez des sociologues, des psys, des philosophes et des parents. Et la nouveauté cette saison, c'est que je donnerai de plus en plus la parole aux enfants. Fête des Gosses est dispo partout. Bonne écoute.